Bonjour à tous, j'aimerais introduire, donc voici un moment très très spécial. Bonjour à tous, donc notre premier live Facebook sur notre communauté, la Kabbale en Afrique, avec le kabbaliste Michael Ettman. Ses étudiants l'appellent Rav, et il est venu ici spécialement pour nous parler de nous expliquer la sagesse de la Kabbale. Okay, donc j'aimerais introduire aujourd'hui Monsieur Lettman, le Rav Lettman, a plus de 2 millions d'étudiants qui étudient la sagesse de la Kabbale dans le monde. Il a écrit plus d'une quarantaine de livres qui parlent de la sagesse de la Kabbale. Lui-même a étudié du kabbaliste Rav Baruch Ashlag. Un éminent kabbaliste de notre siècle, qui est le fils du Bala Sulam, l'éminent Rav Ashlag, Yehuda Ashlag. Donc aujourd'hui, il est avec nous, il a pris le temps, nous allons passer une demi-heure ensemble. Et donc, je lui ai expliqué que vous êtes des nouveaux, mais des personnes qui sont intéressées de savoir ce qu'est la sagesse de la Kabbale. Première question. Bonjour Rav. Premièrement, bonjour Rav.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vos étudiants vous appellent Rav?
Rav,
c'est en traduction, ça veut dire grand. Alors, au lieu de dire grand, on dit Rav. C'est un genre de. C'est un terme de respect. Que je connais dans mon métier, je sais plus que les autres.
D'accord. Donc c'est une sorte de guide, ou est-ce que c'est un gourou, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite?
Non,
pas du tout. C'est un guide. Un enseignant. Mais un grand enseignant s'appelle Rav.
Professeur de mathématiques, par exemple?
Ken, gamani docteur be Kabbalah.
J'ai un doctorat en Kabbalah. C'est comme un doctorat en Kabbalah. Donc, j'ai écrit beaucoup de livres. Je me produis dans beaucoup de congrès, beaucoup de lieux, dans des journaux aussi. Et c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça.
Donc, je vais vous appeler Rav aussi. Donc, Rav, dites-nous un peu. Je vais essayer d'expliquer le contexte de l'Afrique. Okay, vous n'avez jamais été en Afrique, mais je vais essayer d'expliquer le contexte des personnes, des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Okay, donc les personnes. Nous parlons de l'Afrique francophone. Okay, donc environ 9 pays: le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, plusieurs pays qui sont avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons, c'est des pays qui ont été majoritairement colonisés par la France, donc qui parlent français, ont été sous la colonie française, ont eu leur indépendance autant environ vers 1960, et des personnes qui aujourd'hui revendiquent leur propre identité. Il y a une grande tendance en ce moment que les Africains veulent sortir de cette mainmise de la colonisation qui a existé auparavant, et veulent devenir indépendants. Donc ils veulent avoir leur propre monnaie. Il y a des revendications. Ils veulent avoir leur propre monnaie, par exemple. Veulent avoir leur indépendance aussi sociale, donc un retour aux racines qui existaient avant. Donc aujourd'hui, en Afrique, l'intelligentsia africaine est attirée par cette tendance de revenir à la racine. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir à sortir de la chrétienté et revenir au culte des ancêtres, par exemple. Toutes ces choses qui existaient avant, et ils disent que ils avaient tout. Et la seule chose qui leur manque aujourd'hui, c'est de mettre en valeur ce qu'ils avaient avant et qu'ils ont oublié. Donc c'est de nombreuses revendications comme cela. Je ne parle même pas des problèmes économiques qui existent aujourd'hui dû à cette relation entre la France, les pays colonisateurs et l'Afrique, qui sentent qu'il n'y a pas de balance et ils veulent donc devenir indépendants. Donc face à cela, nous avons essayé d'expliquer sur notre page que la sagesse de la Kabbale traite de toutes ces problématiques. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelle réponse peut-on apporter à ces revendications? Je ne suis pas entré dans le détail parce que j'espère que nous aurons d'autres réunions.
Tout d'abord, je dirais ceci. Du point de vue de la force supérieure, que la sagesse de la Kabbale dit qu'il y a une force supérieure, qui est une force pour tout le monde. Chaque peuple, chaque nation, l'interprète selon sa propre nature. Alors même dans des petits pays comme en Afrique, il y a peut-être 40-50 pays, dans chaque pays, même pas seulement dans un pays, mais dans chaque nation il y a des tribus, chacun peut avoir une relation différente à la force supérieure, selon leur nature, parce qu'ils sont tous différents. Donc la sagesse de la Kabbale dit que chacun doit rester dans sa religion, et que personne doit interférer dans l'autre. Parce qu'on a vu que dès que les Français ont quitté, tant qu'ils étaient là-bas, ils ont fait pression que tous soient catholiques. Maintenant qu'ils ont quitté, les peuples veulent revenir naturellement, ils veulent retourner à leur nature. Alors ça, c'est un état naturel, c'est comme ça que ça doit être. Ça, c'est par rapport à la religion. Et alors, ils doivent reconnaître tous les pays, les tribus africaines, ils doivent reconnaître que chaque religion a quelque chose propre à elle. Alors il faut le laisser comme ça, sans pression, sans coercion. Ça, c'est en ce qui concerne la religion. En plus, il faut, parce que quand même, c'est un très grand continent et très divers. Partagé, divisé entre beaucoup de cultures. Alors, c'est préférable d'essayer pour chaque peuple africain. Si on peut généraliser un peuple africain, alors lui donner la méthode de la connexion. Parce que s'ils seront connectés, au-dessus des différences de religion, de culture, de leur histoire, même l'histoire où ils se battent les uns contre les autres, s'ils pouvaient se connecter, apprendre comment se connecter comme il faut, et la sagesse de la Kabbale explique comment le faire, alors là, s'ils pouvaient faire ça, Ils se trouveraient dans un meilleur état et ils auraient pu montrer à tout le monde que c'est possible de se connecter au-dessus de toutes les différences et être vraiment comme à une place où les gens sont capables de se débrouiller les uns avec les autres.
Excellent. Donc là, justement, les Africains aujourd'hui disent qu'ils reconnaissent que le problème, c'est l'union. Il manque l'union, il manque l'unité en Afrique. Ils reconnaissent ce point. Mais en même temps, ce qu'ils disent, c'est qu'ils doivent s'unir entre les Africains et se détacher du blanc, de l'impérialisme, de la colonisation. Et ils disent qu'ils ont la méthode pour s'unir. Donc ma question, c'est... est-ce qu'on a besoin de la sagesse de la Kabbale en Afrique ou alors la méthode existe déjà?
Je crois que oui. Je ne vois pas dans le monde, dans la mesure où j'ai recherché, je n'ai pas vu encore une méthode comme celle-là qui peut connecter entre tout le monde et au-dessus de tout le monde pour que personne ne domine l'autre, tous soient égaux et tous soient indépendants. Et au-dessus de ça, ils soient tous connectés dans une bonne relation.
Aujourd'hui, quel est le danger de dire, OK, nous nous connectons entre nous, mais juste entre nous. C'est quoi le danger ici?
Bon,
tout d'abord, il faut comprendre que nous devons arriver à une éducation. C'est une éducation de connexion. Et pour ça, il faut essayer de connecter l'éducation au peuple africain dans toutes sortes de pays, avec tous les problèmes qu'ils ont là-bas, avec l'Internet, avec la diffusion d'un réseau virtuel. Disons, si on prend ces pays des anciennes colonies françaises, et on commence à expliquer là-bas comment on peut vraiment être connecté ensemble. Ça, il faut voir. Il faut expliquer, donner des conférences, des cours, des vidéos, des films. Que présenter la sagesse de la Kabbale au peuple africain dans un langage qu'ils peuvent comprendre, avec un style qu'ils peuvent accepter, ça, il faut vraiment travailler sur ça. Je ne peux pas le faire parce que moi, je connais pas assez le caractère, la mentalité locale. Ça, c'est eux qui doivent être experts en ça.
Une question. Pourquoi est-ce que la sagesse de la Kabbale, la sagesse de la Kabbale a été connue en Afrique il y a longtemps, ok? Mais dû peut-être à cet héritage existant par rapport aux puissances colonisatrices, elle a été connue via certaines organisations comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Donc ma question, c'est pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on connaît Bné Baro? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que la sagesse, suivant les sources authentiques, se révèle?
C'est naturel, parce que tout le colonialisme, il arrivait en Afrique pour propager la christianité. C'est surtout pour ça, les Français, les Anglais, les Portugais, ou les Hollandais, les Belges, tous, ils venaient à toutes ces places, aux Indes, en Asie, en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud, ils sont venus là-bas pour propager le christianisme. C'est pourquoi ils ont voulu abolir tout ce qu'ils avaient là-bas, y compris le langage, la culture, l'éducation qui est originale que ces nations avaient, qui étaient naturelles, qui étaient vraiment convenables pour toutes ces nations. Et ils ont voulu leur introduire le christianisme d'une façon la plus violente. Tout d'abord, ils étaient des missionnaires. Et maintenant, nous voyons dans quelle mesure ces missionnaires, c'est quelque chose de artificiel, parce que le peuple africain a une culture encore plus ancienne que les Européens, une culture qui leur convient justement. Et c'est pourquoi, au moment où les Européens ont quitté dans le siècle dernier, alors les Africains ont commencé à ressentir, ils se sont ressentis sans pression externe, qu'ils avaient tendance à retrouver leurs racines. Ça prend du temps, mais c'est sûr que le christianisme ne va presque pas rester là-bas. Et il y aura un retour aux racines. Mais le problème, c'est pas ça, retourner aux racines, mais c'est comment tout ce continent, cette grande Afrique, comment elle va commencer à se développer d'une façon correcte. Parce que maintenant, nous voyons là-bas des problèmes, des guerres, des conflits, toutes sortes de choses vraiment qui arrêtent l'évolution, la belle évolution. Moi, je dirais qu'il faudrait faire un réseau d'éducation qui parle de la connexion entre tous et de ce réseau-là, il faut diffuser à toute l'Afrique. Si nous pouvons arranger un tel portal, diffuser l'éducation pour la connexion à toute l'Afrique, si c'est en français, en anglais, en portugais, etc., et même dans ce programme, faire des petits programmes dans les langues des tribus, les langues locales. Là, peut-être on pourrait arriver à de beaux résultats. Je ne connais pas, mais il y a certainement de grands réseaux de CNN, NBC, etc., qui fonctionnent là-bas. Peut-être avec eux, on peut coopérer.
Il y a beaucoup de chaînes privées de télévision qui se sont développées et qui essaient de promouvoir leur propre programme. Donc, dans ce plan d'éducation, comment est-ce que là, on arrive à enlever la peur qui est associée à ce mot Kabbale? Parce que pour beaucoup de personnes, la Kabbale est encore associée à la sorcellerie, à de mauvaises pratiques qui peut-être n'ont rien à voir avec la sagesse de la Kabbale, suivant les sources authentiques.
Je crois que nous devons parler de la sagesse de la Kabbale, l'appeler par son nom. Nous ne devons pas. Il faut parler de l'éducation. De l'éducation pour la connexion. Et petit à petit, expliquer toutes les règles et ne pas dire que ça vient de la sagesse de la Kabbalah. Pourquoi lutter contre des moulins comme des Don Quichotte, que ça n'a aucune utilité? Pourquoi nous devons nous créer encore des problèmes? Si nous pouvons simplement être comme ça.
Donc, Rav, il y a une question qui vient. Okay? Beaucoup de personnes pensent que résoudre les problèmes de l'Afrique, c'est résoudre les problèmes de corruption, les problèmes politiques. Est-ce que si on arrive à résoudre tous ces problèmes, les Africains seront heureux? Est-ce qu'ils vont arriver au bonheur?
Pour être heureux, la personne doit être bien arrangée dans ce monde. Quel est ce qu'elle mérite selon les besoins de survivre, aussi sur le plan physique, sur le plan social. Mais l'essentiel, c'est dans quelle mesure les gens peuvent créer une bonne relation entre eux, parce que c'est possible que toute cette vie, même que cette vie soit une bonne vie, bien avec une bonne base, mais si les gens sont en compétition, en haine, en guerre, en meurtre, dans des drogues et tout ça, alors je crois que en parallèle, parallèlement, il faut se soucier d'élever le niveau de vie, mais en même temps, c'est très important. Si nous construisons un bon environnement où les gens sauront comment se référer les uns avec les autres, avec entraide, et, car là, même avec un peu d'argent, nous pourrons construire une vie, une belle vie où nous nous sentirons bien. Parce que bien, ce n'est pas seulement la quantité de l'argent qu'on a, mais c'est ce calme et ce plaisir qu'on reçoit de la vie.
Je comprends bien. Mais dans la, ce que les gens voient en Afrique, je prends un petit pays, par exemple, comme le Cameroun, près de 200 tribus, ok. Il y a des problèmes de ce qu'on appelle le tribalisme, c'est-à-dire que les gens, tribalisme, c'est des rivalités entre des personnes qui sont d'un même pays, mais qui ne parlent pas la même langue locale, ok. Et comment on va amener ces personnes à ressentir qu'ils sont une même famille, qu'il n'y a pas de différence?
Tu dis que s'il y a là-bas 200 tribus, alors ils parlent 200 langues.
Il y a une langue nationale, le français, on parle aussi l'anglais, mais il y a des langues locales que chaque tribu parle. Et par exemple, il y a des langues locales que chaque tribu parle, et ils ne ressentent pas qu'ils sont des frères.
Allô, allô, Annie Lachomètre Goum.
Gamani.
Le fait qu'ils ne ressentent pas qu'ils sont frères entre eux, ça c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut éduquer. C'est pour ça qu'on parle de l'éducation, qui pour les rapprocher à l'amitié, à la compréhension mutuelle. En plus, je ne crois pas que ces 200 tribus sont tellement différentes. Ils ne sont pas différents dans leur culture. Et même les langues, ils sont différents que chacun veut dominer, être au-dessus des autres. Alors ça, c'est pas une différence. Ça, c'est ce qu'il y a entre chaque personne avec les autres. C'est ce qui sépare toutes les personnes. Alors que, comme ça, on a 8 milliards de personnes qui sont comme ça. C'est pas une question de tribalisme.
C'est vrai. C'est vrai que chacun veut dominer l'autre et chacun a des revendications. Donc la question c'est donc comment la sagesse de la Kabbale résout ce problème?
Je ne sais pas comment approcher ça. Je ne connais pas la situation à approcher les gouvernements, les journaux, ou bien faire ça à travers l'Internet et une publication de notre part. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut... Il ne faut pas parler de la sagesse de la Kabbalah, il ne faut pas enseigner la sagesse de la Kabbalah seulement pour cette minorité de gens qui le veulent. Mais pour tout le reste, il faut seulement parler de la méthode de la connexion.
Ok. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais envoyer une question que j'ai reçue ce matin de quelqu'un sur la page. Ok. Il me dit... Il me dit, je traverse des moments très difficiles depuis 2010. Tout ce que je fais n'avance pas. Je crois que je suis victime de sortilèges. Comment rompre tous ces liens négatifs? Venez, aidez-moi à sortir de ce trou.
Changer ou bien le lieu de demeure ou le lieu du travail ou la maison, ou bien peut-être changer seulement le lieu de travail. Il faut faire quelque chose, un changement de principe dans la vie. Il n'y a aucune magie. Tout ce qu'il y a, des mauvaises forces, ça va partir.
Ça, c'est un grand problème de l'Afrique, justement, qui peut-être n'existe pas ailleurs, mais c'est un problème qu'en Afrique... Il y a des problèmes de sorcellerie. Les gens ont peur. Les gens des problèmes de jalousie. Les gens se tuent parfois pour rien, seulement à cause de la jalousie. Et donc ce monsieur qui a écrit, je lui ai dit que il y avait l'interview avec le Rav Lettman, je reçois des centaines de questions comme ça, chaque mois. Donc, ma question c'est, est-ce que la sagesse de la Kabbale peut aider à sortir de cette peur des sorciers? Je sais pas, peut-être que pour quelqu'un, un Européen, ce dont je parle est stupide, il ne peut pas comprendre. Mais vous qui êtes kabbaliste, je pense que vous pouvez comprendre ces choses, et c'est quelque chose qui existe, vraiment, ça immobilise une personne.
Non,
pour ça, on a besoin d'un environnement. Là, il pourra s'élever. S'il n'a pas d'environnement à côté, c'est pour ça que j'ai dit, il faut peut-être changer ou bien le lieu de travail ou la maison, tout changer. S'il ne le fait pas, s'il reste dans le même environnement, cet environnement va le garder et va lui faire penser de toute cette sorcellerie et tous ces problèmes, et il ne pourra pas sortir de ça. Il doit trouver un nouvel environnement. Alors c'est pourquoi nous devons commencer à leur enseigner cette nouvelle méthode de connexion entre les gens.
Mais ma question c'est, est-ce que quelqu'un qui étudie la sagesse de la Kabbale peut être encore victime de sorcellerie?
Non, il n'y a pas de sorcellerie.
Non, je ne dis pas que c'est la sorcellerie. Est-ce qu'il aura encore peur des sorciers? Est-ce qu'il aura encore peur des attaques extérieures? Parce que c'est quelque chose qui existe. Au moins pour eux, c'est...
Non, je ne crois pas. Il a peur seulement de deux forces, du mal en lui et d'une force supérieure.
La sorcellerie, ça n'existe pas? C'est une question.
Non, la sorcellerie n'existe pas. Tout le mal est dans la personne. Dans la personne. Y compris le mauvais œil, le mauvais penchant, tout ça c'est dans la personne. Si on pouvait contrôler nous-mêmes, si on pouvait nous contrôler, alors on aurait besoin d'avoir peur de rien.
Okay. Une question que j'ai reçue. Pourquoi est-ce que les Africains sont passés par tellement de souffrances? Est-ce qu'il y a une explication à cela?
Écoute. C'est vraiment un continent très spécial qui est très grand. Alors, les tribus se sont développées dans toutes sortes de places. Il y avait toujours des conflits entre eux. C'est pourquoi il y avait une histoire très pénible pour toute l'Afrique. Si tu me demandes à propos de la colonisation, je crois qu'elle a aussi agi aussi pour le bien, pas seulement pour le mal.
Mais avant ça, il y a eu l'esclavage.
Mais Avdout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait avant. Il me semble que le mauvais penchant était toujours mauvais dans la nature de l'homme et il poussait à se battre et à la compétition et toutes sortes de heurts les uns avec les autres. Je ne crois pas qu'il y avait une nation qui peut dire qu'elle a vécu calmement. Toujours dans chaque nation, il y a eu toujours des divisions, et on voit ça du Japon, la Chine, l'Amérique du Sud, et sûrement en Europe. Je ne crois pas qu'en Afrique, on a des gens tout à fait différents. Non, mais c'est une question d'éducation.
Donc, Rav, il nous reste quelques 30 secondes. Nous espérons que nous pourrons vous poser plus de questions dans le futur. Avec quel mot, quelle direction une personne doit se diriger? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant qu'on se quitte pour les personnes qui sont là?
Nous pouvons effacer toutes les mauvaises forces, attirer toutes les bonnes forces de la nature, seulement si nous serons comme ça. Si nous allons nous comporter bien les uns envers les autres, alors on va éveiller dans la nature seulement des bonnes forces. C'est ça, il faut apprendre comment le faire. Mais je crois que le peuple africain y est capable. Et on va tâcher d'aider dans la mesure du possible.